Bonjour à toutes et à tous. Les nouvelles vagues installent leur micro dans le CDI du lycée Jacques Decour à Paris à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école pour 5 émissions sur le rêve. Aujourd'hui, le rêve et les innovations technologiques, c'est parti.
Dans ce monde futur, les gens qui s'adopteront et qui survivront le mieux et qui réussiront le mieux, c'est pas les gens pratiques, c'est pas les gens raisonnables, c'est pas les gens rationalistes, c'est les rêveurs.
J'ai eu un déchaînement transcendantal de visions colorées aujourd'hui dans le bus en allant à Marseille. Nous roulions sur une longue avenue bordée d'arbres et je fermais les yeux dans le soleil couchant quand un flot irrésistible de dessins de couleurs surnaturelles, d'une intense luminosité, explosa derrière mes paupières. C'est ainsi que Brian Gysin rapporte dans son journal en 1958 l'expérience qui lui donne l'idée de la machine à rêve. Son ami scientifique Somerville conçoit ce cylindre fendu en 1960 et il lui suffit alors de se placer devant, les yeux fermés, à hauteur des fentes pour que la lumière traversant les dernières vienne en tournant caresser ses paupières à intervalles réguliers à la façon d'un stroboscope en plus doux. Nous inverserons le procédé aujourd'hui et nous irons du rêve vers la machine. Il est 14h, fermez les yeux à intervalles réguliers devant votre radio. Bienvenue à tous dans les nouvelles vagues. Pas de rubrique au singulier exceptionnellement en fin d'émission cette semaine, mais une carte blanche aux élèves qui chaque jour vers 14h50 nous offre des petits bouts de vie rêvée. Ce mercredi, Wylaine vous racontera comment un jeu vidéo lui permet d'embrasser la vie rêvée d'un entraîneur de football. C'est le troisième volet donc d'une semaine de rêve, c'est ainsi que nous avons baptisé ce nouveau projet d'une série d'émissions totalement élaborée avec des élèves, à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école et pour préparer ce marathon de 5 émissions depuis le CDI Jacques Decour à Paris, nous avons travaillé au cours de plusieurs ateliers en février et en mars et nous avons réfléchi aux axes que nous souhaitions privilégier sur le grand tableau Velléda jaune, la semaine d'émissions a peu pris vie et sens et des équipes se sont formées par affinité de sujet. Wylaine, bonjour.
Bonjour.
Tu es en seconde, tu fais donc partie de l'équipe qui a réfléchi à l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter comment on en est arrivé à l'émission du jour ? Ça n'a pas été de tout repos.
Donc en fait, on avait fait plusieurs ateliers. Et en fait, chaque groupe dans son atelier avait un sujet. Et en fait, on avait un sujet précis, c'était le rêve. Et par rapport à ce sujet, il fallait trouver un axe. Et on était le groupe qui n'avait pas forcément de sujet précis, donc on a dû trouver un sujet rapidement. Et après plusieurs réflexions, on s'est dit qu'on passait vraiment au travers d'un sujet très intéressant qui était les technologies du futur. Et donc du coup, en fait, notre sujet, c'est le rêve, la réalité et les technologies du futur.
Alors partons de là, c'était une très bonne base, mais il vous manquait un invité. Saïd, bonjour.
Bonjour.
Comment vous êtes arrivé à cette invitation, justement?
Comme le disait Wylaine, après de nombreuses réflexions, on réfléchissait sur le sujet qu'on voulait. Et après, moi, comme je regarde beaucoup la télé, BFM TV, et voilà, je me suis dit on pouvait inviter Anthony Morel qui parlait des technologies, qui était le sujet, en fait.
Tu t'es souvenu que des nouvelles technologies, t'en entendais parler à cet endroit-là?
Voilà, exactement à ce moment-là, à midi.
Et nous, on a pris notre téléphone, on a appelé Anthony Morel, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci beaucoup
d'être là.
Merci à vous, merci de l'invitation. Merci d'avoir pensé à moi, hein, c'est sympa. Merci de regarder.
Et donc, autour de cette table, Saïd, qu'on vient d'entendre, Wylaine, qu'on vient d'entendre, mais aussi Mariana. Bonjour Mariana.
Bonjour.
Gérard.
Bonjour.
Et bonjour Elodie.
Bonjour.
Jacques Berger est non seulement un chercheur scientifique dont les études sur la physique nucléaire, l'électronique, les recherches mathématiques font autorité, mais également un écrivain de grand talent. 50 années de découvertes, agents secrets contre armes secrètes, signaux des étoiles et surtout le matin des magiciens écrit en collaboration avec Louis Powells ont eu auprès du grand public un succès considérable. Au moment où tout le monde s'interroge sur ce que demain nous réserve, il était intéressant de poursuivre les rêves de Jacques Bergier. Sont-ils science? Sont-ils fiction? Seul l'avenir nous apprendra ce que sera l'homme du futur. Les rêveurs n'ont-ils pas souvent raison?
C'est ainsi que termine l'introduction bien trouvée d'une émission qui s'appelait Le Bureau des rêves perdus, consacrée cette année-là, à ce moment-là, en 1961, sur la RTF, à ce monsieur Jacques Berger, un agent secret, un écrivain, un ingénieur, une personne assez particulière, justement, qui naviguait entre le rêve, les projections dans le futur, la science, mais aussi la fiction. Ça t'a inspiré une question, Mariana?
Oui, donc... Est-ce que vous êtes un rêveur ou vous considérez comme un rêveur,
Anthony Morel?
Oui, je me considère plutôt comme un rêveur, on va dire, mais en même temps quelqu'un de très cartésien, de très rationnel. Donc j'aime bien la notion de rêve, évidemment, mais ce qui me plaît encore plus, c'est de voir comment des inventeurs, des ingénieurs, des gens qui sont géniaux, que je rencontre ou dont j'entends parler, sont capables de transformer ces rêves-là en réalité. Et c'est ce qui m'étonne vraiment dans l'évolution technologique telle qu'on la voit ces dernières décennies, et encore plus ces dernières années, parce que j'ai l'impression qu'il y a une accélération absolument incroyable, c'est qu'on est en train de transformer des choses qui relevaient du rêve il y a encore quelques années, enfin moi quand j'étais gamin, quoi, et qui aujourd'hui sont en train de devenir des réalités. Donc oui.
Est-ce que vous avez des exemples là-dessus? Par exemple, qu'est-ce qui relevait du rêve lorsque vous étiez enfant et que vous pouvez observer dans la réalité aujourd'hui?
Bah, écoutez, il y a des choses. Si on prend un exemple de fiction, j'ai fait une chronique là-dessus il n'y a pas très longtemps, c'était les 30 ans de Retour vers le futur, le film Retour vers le futur. Alors je ne sais pas si vous avez vu Retour vers le futur.
Est-ce que vous l'avez vu autour de la table? Mariana, oui, William.
Ah quand même, donc c'est resté un film, c'est pas...
Gérard aussi, tu l'as vu? Elodie aussi, aussi.
Ah, donc c'est pas seulement un film générationnel, et ça fait plaisir à entendre.
Il y a que moi qui ne l'ai pas vu en fait.
Non, c'est pas vrai, c'est honteux. Bon, DVD ce soir, obligatoirement. Donc tous ceux qui ont vu Retour vers le futur, c'est un film qui, moi, quand j'étais enfant, dans les années 80-90, me faisait absolument rêver. Tout ce qu'on voyait dans ce film, le hoverboard, vous voyez ce que c'est, le hoverboard, c'est la planche volante, le skateboard volant du personnage principal, Marty McFly, qui lui permet comme ça de s'échapper, de s'envoler et tout. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Tout le monde, tous les enfants voulaient un hoverboard. Enfin, sauf vous qui n'avez pas vu le film, mais à l'époque, on voulait des hoverboards, nous. Et quelle n'a pas été ma surprise quand je me suis rendu compte, il y a quelques mois, qu'une start-up travaillait sur un vrai modèle d'hoverboard, donc une planche, un skateboard gravitationnel. Alors, ça fonctionne pas encore exactement comme celui de Marty McFly, ce serait trop beau, mais ça fonctionne. On a des images, on les voit sur Internet, de cette planche qui gravite au-dessus du sol. C'est un champ électromagnétique, enfin, on va pas expliquer précisément, mais et la planche est capable de voler au-dessus du sol. Et voilà, là, pour moi, c'est là qu'on touche à la beauté de ce métier, en fait, qui est celui de journaliste high-tech. C'est vraiment le fait de voir ces choses qui relevaient complètement, purement de la fiction, qui sont en train de devenir réalité. Un deuxième exemple, si on a le temps, j'y pensais pas plus tard que ce matin. Moi, il y a une grande œuvre de science-fiction que j'adore, c'est Dune de Frank Herbert, qui raconte, c'est une saga incroyable. Si vous l'avez pas eu l'occasion de la lire, je vous conseille à tous de la lire évidemment. Et dans Dune, les habitants sont sur une planète désertique où il fait extrêmement chaud et où l'eau est la ressource la plus rare. C'est plus rare que tout l'eau dans Dune. Et donc, ils ont créé des combinaisons qui sont capables de recycler, de récupérer la sueur humaine. Et là, je suis en train de préparer une chronique pour un peu plus tard dans la semaine là, où effectivement, on s'est rendu compte qu'un ingénieur suédois avait mis au point une machine à recycler la sueur humaine. C'est-à-dire que tu mets tes t-shirts trempés de sueur à l'intérieur, ça les essore, ça filtre les microbes, les trucs, et à la fin, t'as un bon verre d'eau de sueur recyclée. Donc ça passe pas très ragoûtant, mais c'est très propre, et ça fonctionne. Donc voilà, là encore, un exemple de fiction qui est en train de devenir réalité. Et les exemples comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Si on parle de l'homme bionique, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans l'émission, mais là c'est pareil, c'est Terminator en train de devenir réalité, Matrix en train de devenir réalité quand on parle d'intelligence artificielle, enfin vraiment les exemples, il y en a à foison.
Et on va y venir. Mariana?
Et justement, toute cette avancée technologique, est-ce que c'est forcément qu'une bonne chose ou...
Ah, alors c'est une vaste question. Non, probablement, c'est pas seulement une bonne chose, et il faut évidemment y réfléchir. Alors après, ça dépend, il faut prendre peut-être au cas par cas. Un exemple typique, c'est la robotique. Les robots, on voit bien, sont en train de devenir de plus en plus sophistiqués, de plus en plus performants. La question, c'est demain, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Qu'est-ce qu'on va leur permettre de faire? Et jusqu'à quel point ils vont devenir intelligents? C'est-à-dire que là, on se rend compte que premier problème, et ça répond en partie à ta question, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, on se rend compte qu'ils vont nous mettre plus ou moins tous au chômage dans les décennies qui viennent.
Ce qui n'est pas un des moindres problèmes.
Ce qui n'est pas un des moindres problèmes, mais c'est une vraie problématique. On se rend compte, les études sont à peu près concordantes, enfin, ils donnent des chiffres à peu près un peu différents, mais en gros, à l'horizon, d'ici une trentaine d'années, on aura la moitié des emplois qui seront automatisables. comme on appelle ça. Et pas seulement des tâches manuelles, comme on a vu ça, nous, quand on a grandi, c'est-à-dire avec des tâches en usine ou des tâches manuelles très répétitives. Non, des tâches intellectuelles. Hein, des robots qui sont capables de tout faire. Là, au Japon, on a un hôtel qui s'est ouvert, par exemple, qui est entièrement géré par des robots. Donc, vous arrivez, vous allez être réceptionné par un réceptionniste robot. Vous avez un majordome robot qui va porter vos valises jusqu'à la chambre. Alors, bon, derrière, il y a des humains quand même qui doivent coder tout ça. Hein. Mais effectivement, il y a quand même une problématique qui est en train de se mettre en place. Il y a des robots fermiers qui sont en train de voir le jour. Quand je vous parlais de professions aussi intellectuelles, il y a des robots, et là on rejoint la problématique de l'intelligence artificielle, qui commencent à être employés par exemple dans des entreprises de capital risque. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, c'est à Hong Kong, j'ai plus le nom d'entreprise en tête, elle a nommé un robot, une intelligence artificielle, parmi les administrateurs de l'entreprise. C'est-à-dire que ce robot, il a la même voix au chapitre quand il s'agit de prendre des décisions, et notamment des décisions d'investissement, que les autres directeurs. Et lui, on part du principe qu'il est même plus fiable que les autres, parce qu'il n'y a aucun biais humain. Hein, il est, lui, bah, il est robot, hein, donc il fait ses décisions en fonction de calculs et de choses très froides. Il n'y a pas de d'affect. Donc voilà, on en est là. Donc effectivement, là, ça va poser un problème. Deuxième problème, si on parle toujours de la robotique, c'est, encore une fois, qu'est-ce qu'on leur fait faire à nos robots ? C'est-à-dire, fabriquer un robot qui est absolument génial et qui va porter mes valises dans l'hôtel, très bien. Par contre, fabriquer un robot qui est aussi intelligent que moi, mais auquel je vais donner des armes, là, ça peut poser des soucis.
Et on va y revenir sur cette question de l'intelligence artificielle et des robots, mais puisque vous avez prononcé ce mot de journaliste high-tech, comment est-ce que vous décidez, après avoir étudié le journalisme, de vous concentrer sur ce domaine-là, qu'est-ce que sont les nouvelles technologies, les high-tech, et précisément parfois ce lien entre la projection vers le futur, le rêve et ce qui est réalité ?
Moi, ça s'est fait presque, pas tout à fait par accident, mais disons que j'avais pas l'idée de devenir journaliste high-tech. Ça s'est fait beaucoup par le prisme du jeu vidéo. On va peut-être en parler tout à l'heure aussi, mais moi, je suis un joueur historique. Enfin, je jouais, vous ne dites pas né, je jouais déjà depuis longtemps.
Sur quelle console ?
Oh, la Master System 2 à l'époque, puis la Mega Drive. Ah oui, ça les fait rire. Bah, évidemment. Vous connaissez Master System 2, ça vous dit quelque chose ?
Non,
c'est ça. Évidemment, donc, c'était les premières consoles de Sega, puis les premières consoles de Nintendo. Donc je jouais sur ces consoles 8 bits, puis 16 bits complètement avec des jeux pixelisés, mais qui étaient absolument géniaux pour l'époque. Et moi, c'était mon rêve, c'était de devenir testeur de jeux vidéo. Moi, j'aurais adoré faire ça.
Et puis, c'est un métier qui existe. Hein.
Bien sûr, c'est un métier qui existe, ouais, tout à fait. J'en rêve toujours, peut-être que je me reconvertirai un jour. Mais du coup, bah, voilà, je me suis dirigé vers des études de journalisme, mais plus classiques. Après, j'avais l'idée d'être journaliste information générale, comme on dit. Et puis, ça m'a un peu rattrapé. Je proposais beaucoup dans mes différents stages de sujets autour des high-tech, parce que c'est quelque chose qui continuait à quand même beaucoup m'intéresser. Et puis, ça s'est fait comme ça, quoi. Du coup, on m'a proposé ce poste-là, de tenir une chronique tous les jours sur BFM Business, BFM TV et sur RMC aussi. Et voilà, et c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est, pour le coup, c'est un secteur qui avance tellement toujours que même en ayant comme moi une énorme angoisse de la page blanche, je peux pas arriver sans idée le matin. C'est impossible.
C'est la question que j'allais vous poser. Vous avez la sensation que c'est un domaine suffisamment porteur pour aujourd'hui remplir bien plus qu'une chronique par jour ?
Totalement. Totalement, totalement. Et en fait, si vous voulez, on prend presque le problème à l'envers, c'est-à-dire il faudrait pas qu'il y ait une chronique high-tech, mais c'est la high-tech qui s'immisce et qui s'injecte dans tous les sujets en réalité. Et c'est ça la réalité. Du coup, on pourrait parler de high-tech quasiment tout le temps, ou en tout cas un peu à toutes les sauces. Donc, mais c'est bien qu'il y ait des espaces, en tout cas dédiés, je pense, dans les médias pour en parler, parce que oui, ça avance à une vitesse qui est absolument incroyable. Enfin, je veux dire, la robotique, l'intelligence artificielle, ce que deviennent les voitures. Enfin, c'est très étonnant, quoi. Moi, je m'en rends compte vraiment parce que ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis ce secteur. Ça avançait déjà très vite, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une accélération qui est exponentielle, on va dire, année par année.
C'est un défi lancé à l'intelligence artificielle, à l'intelligence du cerveau humain. Qui va gagner la partie entre un super ordinateur mis au point par le géant américain Google et un champion du monde de jeux de Go? Le match se déroule en 5 manches. Première partie ce matin en Corée du Sud. Frédéric Ojardias, vous avez suivi cela à Séoul. 1-0 pour l'ordinateur.
Les mots manquaient vraiment hein, aux joueurs professionnels venus à Séoul pour commenter le match. Énorme surprise, superbe, un résultat incroyable. Ils étaient vraiment incrédules. C'est la fin de l'espèce humaine, a même laissé échapper alors un brin dramatique, un journaliste coréen. La partie a été incertaine jusqu'au bout. L'ordinateur a même fait quelques petites erreurs, mais à la surprise générale, Google DeepMind est arrivé au bout de son adversaire humain. Le joueur sud-coréen, Lee Sedol, a même fait une petite erreur vers la fin. Il a craqué, mais il lui reste encore 4 parties pour tenter de reprendre le dessus. Des parties qui suscitent une excitation considérable ici en Corée du Sud. Elles sont diffusées en direct par toutes les télévisions, sur le web. Lee Sedol avait déclaré avant le match que la capacité vraiment étonnante de son adversaire informatique à simuler l'intuition humaine le rendait très nerveux, et les faits lui ont donné raison. Pour Google, l'enjeu dépasse de loin cette simple partie. L'entreprise américaine y voit un test qui permet de mettre au point une intelligence artificielle capable d'apprendre par elle-même et même de prendre des initiatives.
Un extrait d'un journal d'actualité diffusé le 9 mars dernier sur France Culture. On entend ici Frédéric Ojardias depuis Séoul et qui raconte le début de cet événement, hein, qui s'est terminé par la victoire de la machine au jeu de Go contre l'humain. Frédéric Ojardias qui raconte à quel point c'est un événement, que tout le monde le suit à la télévision là-bas à Séoul. J'imagine que c'est aussi un événement que vous avez suivi. Anthony Morel, avec quelle question, avec quelle attente, avec quelle curiosité vous avez suivi ce match-là?
Ah, moi je l'ai suivi avec passion, j'ai suivi le parcours un peu de cet ordinateur parce qu'il avait déjà battu le champion d'Europe de Go il y a quelques semaines, et ça avait été un vrai coup de tonnerre dans le monde des chercheurs en intelligence artificielle parce que personne ne s'attendait à ça. En fait, faut comprendre, alors le jeu de Go, je sais pas si tout le monde voit bien ce que c'est vrai qu'on a un peu connu les règles avec justement cet affrontement, mais c'est le jeu le plus complexe créé par l'être humain, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus complexe en termes de nombre de combinaisons possibles que le jeu d'échecs par exemple. L'ordinateur battait déjà l'être humain au jeu d'échecs, l'ordinateur Deep Blue avait battu Kasparov notamment, je crois que c'est en 97, mais là, au jeu de Go, le nombre de combinaisons possibles, c'est 10 puissance 170. Vous faites plus de maths que moi aujourd'hui probablement, mais c'est en gros donc un 10 avec 169 zéros derrière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup plus de combinaisons possibles au jeu de Go qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Voilà, c'est juste, enfin on peut même pas se figurer ce chiffre. Et donc c'est impossible d'apprendre à un ordinateur toutes les combinaisons possibles, contrairement au jeu d'échecs. Donc on est obligé de créer un ordinateur qui ait effectivement une forme d'intuition, ou qui soit capable de raisonner comme un être humain, j'utilise le mot avec des guillemets évidemment, mais c'est ça qui est fascinant dans cette histoire, c'est-à-dire que cet ordinateur qui a été mis au point par, alors c'est pas Google directement, c'est DeepMind qui est une start-up qui a été rachetée par Google, eh bien cet ordinateur, on lui a fait apprendre des parties, on l'a fait jouer contre lui-même, et à un moment, il est devenu tellement bon, eh bien qu'il a été capable de dépasser l'humain entre guillemets, et d'inventer des coups qu'aucun humain n'aurait pu imaginer. Et c'est ça qui est passionnant quand on regarde les commentaires des joueurs de Go professionnels après cette partie, hein, qui a été gagnée 5-1 par l'ordinateur. Eh bien les champions disent, c'est incroyable, il y a des moments, l'ordinateur faisait un coup, personne n'avait vu ce coup. Personne n'aurait pu imaginer jouer ce coup. Et simplement, on se rendait compte quelques minutes après que c'était un coup de maître et que c'était le coup gagnant. Et c'est là où on a peut-être un petit aperçu de ce qui nous attend, dans le sens où l'ordinateur va peut-être à un moment ou à un autre devenir plus fort que nous à certaines tâches, va nous dépasser.
Elodie ?
Alors moi justement, je voulais savoir comment est-ce possible qu'un ordinateur qui est au final quand même créé par des humains peut être plus intelligent que l'humain ?
Oui, alors c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors pour le coup, c'est des questions que moi je suis pas ingénieur, donc je vais vous expliquer ça avec mes mots. Mais c'est vraiment le cœur du problème aujourd'hui de ce qu'on appelle le deep learning ou le machine learning. C'est un mot qu'on va entendre. C'est un barbarisme. Hein, c'est des mots anglais évidemment, mais qu'on va entendre de plus en plus. C'est-à-dire la capacité d'apprendre à des ordinateurs. De leur apprendre à apprendre, en fait. Ils vont apprendre par eux-mêmes. Et dans le cas de l'ordinateur qui joue au Go, c'est ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'on va pas seulement lui faire ingurgiter plein de combinaisons de jeux comme on le faisait pour les échecs, par exemple, mais on va le faire affronter des adversaires virtuels, et mieux que ça, on va le faire jouer contre lui-même. Et en le faisant jouer contre lui-même par un espèce d'effet d'escalier comme ça, il y a un moment où il va dépasser, en fait, où il va dépasser le stade, et il va être capable d'apporter des solutions à un problème posé par un humain qu'aucun humain n'aurait pu résoudre. Et ça, c'est valable pour le jeu de Go. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est pas le jeu de Go en tant que tel, évidemment, c'est les débouchés possibles. Alors on l'entendait dans le reportage, les débouchés ça va être pour Google eux-mêmes. Non seulement ils font une belle opération de pub, mais en plus ils vont pouvoir améliorer leur moteur de recherche par exemple, parce que cette intelligence artificielle, elle va mieux comprendre par exemple les questions qu'on pose au moteur de recherche Google. Il va comprendre ça de manière très fine, même quand on parle en langage familier ou argotique. Et puis il y a des applications par exemple dans le domaine de la médecine, où on peut imaginer des intelligences artificielles qui vont être capables de raisonner, là encore j'utilise ce mot avec des guillemets, mais de penser comme un médecin. C'est-à-dire qu'on va lui présenter une radio ou une échographie, et il va être capable d'aller détecter un problème avec un œil aussi précis que celui d'un médecin. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Voilà, c'est les avancées dans l'intelligence artificielle, le potentiel dans le domaine de la santé est considérable.
Gérard ?
J'aimerais savoir si vous pensez que plus tard, l'homme pourrait quand même rattraper la machine ou...
Est-ce qu'il y a un petit peu d'espoir sur l'humain quand même?
Malheureusement, non. Enfin, c'est terrible à dire, mais je ne pense pas. C'est-à-dire qu'une fois que la machine nous aura dépassé, malheureusement, nous, notre cerveau, il a ses limites. Même si on en exploite qu'une petite partie, on le sait, il a quand même ses limites. Alors que la machine, quand on ajoute de la capacité de calcul, de la puissance de calcul, et c'est ce qu'on fait, hein, dans les supercalculateurs, donc ces gigantesques ordinateurs qui ont une puissance de calcul massive, bah malheureusement, une fois qu'ils nous auront dépassé, je pense qu'il n'y aura pas de point de non-retour. Et c'est pour ça que, et c'est là aussi que la fiction rejoint le rêve ou le cauchemar rejoint la réalité, qu'il y a beaucoup de sommités du monde scientifique, des ingénieurs de haut niveau, des gens comme Stephen Hawking, que vous connaissez peut-être, qui est l'un des esprits les plus brillants de la planète, hein, un physicien ultra célèbre. Elon Musk aussi, qui est le fondateur de Tesla, par exemple, et le fondateur de plein d'entreprises, et qui est vraiment considéré comme le nouveau Steve Jobs. Bah, ces gens-là disent il faut dès aujourd'hui mettre en place des comités éthiques, ou en tout cas réfléchir aux limites qu'on veut poser à ces intelligences artificielles. Parce qu'effectivement, le risque, bah, c'est peut-être que demain, elles nous dépassent, et puis demain, bah, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'elles sont capables de faire? Qu'est-ce qu'elles font de nous, les humains, hein, si elles se rendent compte qu'on n'est pas assez productif par rapport à des robots? Bah, qu'est-ce qu'on fait des humains? Non, mais c'est un scénario, c'est Terminator, quoi. Pour le coup, pour rejoindre la fiction et la réalité, c'est Terminator, mais c'est des scénarios qui sont sérieusement imaginés aujourd'hui par des gens qui sont clairement pas des savants fous, qui sont des gens brillants, qui ont réfléchi à la question et qui sont au plus près, hein, de ces avancées technologiques-là. Donc c'est des questions qu'il faut se poser.
Est-ce qu'ils sont aussi, ces gens-là, donc pour ne pas les citer, par exemple ce grand groupe Google, est-ce qu'ils sont au plus près des rêves de l'humain? Est-ce que ce sont des gens qui, dans leur département d'innovation, dans leur département de prospective, se nourrissent des films, se nourrissent des livres, se nourrissent de, je sais pas, Retour vers le futur, ce fameux film qui a nourri toute une génération? Ah oui. Est-ce qu'ils en sont imprégnés?
Je pense que oui. Je pense qu'il y a... il suffit de connaître des ingénieurs pour savoir que, enfin surtout dans les jeunes générations, elles ont été abreuvées à tous ces films, à tous ces bouquins, et que évidemment elles ont envie de s'inspirer de ça dans leur travail de tous les jours. D'autant que vous savez, chez Google, ils ont une méthode de travail un petit peu particulière, c'est qu'ils ont 20% de temps libre pour travailler sur des projets qui leur sont propres. Bon, qui sont quand même sous le giron de Google, mais en tout cas, ils font ce qu'ils veulent avec ces 20% de temps-là. Et donc, c'est intéressant de voir qu'ils travaillent effectivement sur des projets qui sont nourris de cet imaginaire-là. Pas seulement chez Google, d'ailleurs. Je me faisais la réflexion l'autre jour, je faisais un truc, c'était sur un équipementier aéronautique, BAE Systems, britannique. Donc, pareil, hein, où il y a des ingénieurs évidemment brillants qui travaillent, qui essayent d'imaginer les avions de demain. À quoi ressembleront les avions du futur? Et il y a un des avions qui s'appelait le Transformer. Et comme le film, quoi. Et c'était exactement ça. C'était un avion qui était capable de se séparer en trois parties. Enfin voilà. Et c'est des choses sur lesquelles il travaille clairement. Et quand on voit ce prototype, enfin ce concept d'avion, on se dit bah oui, clairement. Enfin, il a vu le film, il s'en inspire. C'est sûr et certain. Donc oui, les ingénieurs, c'est évident qu'ils puisent dans cette matière qui est presque inépuisable des œuvres de science-fiction et des œuvres d'anticipation.
Thank you. nouvelle vague par Marie Richaud.
C'est un parapluie qui ressemble à un parapluie tout à fait normal, sauf qu'il a été spécifiquement conçu pour la protection rapprochée des personnalités, des chefs d'État. Il résiste absolument à tout. C'est-à-dire qu'on peut y aller au couteau, il y a un tissu anti-lacération, on peut aller avec de l'acide, jeter de l'acide dessus, du feu, des jets de parpaings de pierre, des pavés jusqu'à 3,5 kg. On peut repousser un agresseur aussi parce qu'il y a un mât en carbone et en titane qui va permettre de repousser comme ça quelqu'un. Et donc c'est un parapluie qui a été adopté par le SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Donc France,
qui en possède donc.
Qui en possède donc. Mais François Hollande l'utilise.
Ils sont équipés.
Ils sont équipés.
On vous entend ici, Anthony Morel, dans un exercice assez quotidien, puisque c'est cette fameuse chronique dont nous parlions tout à l'heure avec les élèves, une chronique ici au micro de la matinale de RMC, présentée par Jean-Jacques Bourdin, et vous présentiez un fameux parapluie.
En fait, moi, chaque jour, je vous vois présenter de nouveaux objets, et en fait, je me posais la question, où vous trouvez tous ces objets, en fait ?
Alors, il y a plein de choses différentes, en fait. Il y a beaucoup d'entreprises, de start-up qui m'envoient des messages pour me proposer des sujets, qui me disent « Ah oui, on est en train d'inventer ou de travailler sur tel ou tel objet. Est-ce que ça vous intéresserait d'en parler ?» Et c'est vrai que je reçois de plus en plus de propositions, parce qu'il y a énormément d'innovations. Il faut le savoir, beaucoup de start-up françaises, il y a une vraie inventivité, une innovation qui est vraiment très 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 marquée, beaucoup d'ingénieurs brillants.
Avec une spécificité, des domaines un peu particuliers.
Alors, ouais, alors il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de ce qu'on appelle l'internet des objets, donc tous les objets connectés du quotidien. Vous savez que d'ici 2020, il y aura 80 milliards d'objets connectés. Enfin, tout sera connecté, hein, votre cafetière, votre lit, tout sera connecté potentiellement, connectable en tout cas. Et il y a beaucoup de boîtes françaises qui travaillent là-dessus. On l'a vu d'ailleurs, il y a des grands salons, un grand salon notamment le CES de Las Vegas tous les ans. Et il y avait énormément d'entreprises françaises. On était très très bien représenté, et c'est bien parce que c'est aussi ça, c'est la croissance future éventuellement, donc faut penser à ça. Et puis petit cocorico, il y a beaucoup d'inventivité, il y a beaucoup aussi d'ingénieurs français qui partent dans la Silicon Valley, hein. Google, Facebook, Apple sont très friands aussi des ingénieurs français, il faut le savoir.
Est-ce qu'il faut s'en réjouir?
Oui.
Qui partent, c'est vrai.
Ah, qui partent, non. Qui aient un appétit pour les ingénieurs français, oui. Mais qui partent, non, évidemment. On préférerait qu'ils restent chez nous. Mais enfin, en tout cas, on peut se réjouir du fait qu'il y ait des ingénieurs qui sont brillants dans l'internet des objets et aussi dans l'intelligence artificielle, précisément. Il faut savoir que le chef de l'intelligence artificielle chez Facebook, par exemple, c'est un monsieur qui s'appelle Yann LeCun, qui est vraiment l'une des têtes pensantes de l'intelligence artificielle dans le monde, et c'est un Français. Et ils ont lancé l'un de leurs centres de recherche en matière d'intelligence artificielle, ici à Paris. C'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a parmi les meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle au monde. Donc voilà, petit cocorico, on peut le dire. Mais pour répondre à ta question, donc il y a ça, il y a beaucoup d'entreprises qui me contactent, il y a beaucoup aussi de veille technologique, c'est-à-dire que je vérifie, je regarde tous les jours ce qui se passe, sur des sites spécialisés américains, asiatiques, beaucoup de sites de la Silicon Valley justement qui sont au plus près, qui prennent le pouls un peu de ce qui se passe là-bas, sur place, auprès des startups et des entreprises qui sont souvent les plus innovantes au monde. Et puis, voilà, c'est les deux sources principales d'informations où je vais puiser un petit peu mes idées. Là, en l'occurrence, pour le Parapactum, c'était une petite entreprise dont j'avais entendu parler et qui est basée à Cherbourg, donc une petite boîte, et j'avais vu que j'avais lu, je sais plus où d'ailleurs, qu'il faisait un parapluie qui était utilisé par François Hollande, donc François Hollande, à l'époque Nicolas Sarkozy d'ailleurs, puis ensuite François Hollande, et qui est un parapluie blindé. Et ça m'intéressait de voir comment une petite entreprise artisanale de Cherbourg, parce que c'est ça, hein, les parapluies de Cherbourg, c'est une manufacture de parapluies, ils font des parapluies tout à fait normaux, et ils se sont dit, on va faire de la recherche et développement, on va déposer des brevets, on va faire bosser des ingénieurs sur un parapluie qui serait blindé et qui servirait de bouclier, enfin d'armes défensives, on va dire, pour des hautes personnalités. Et c'est vrai que c'est un objet qui est assez étonnant, quoi, parce qu'on l'avait en plateau, alors ça ressemble à un parapluie classique, sauf qu'il est un peu plus lourd. Mais sauf que c'est un petit bijou de technologie. Vous avez une triple toile en Kevlar qui arrête les coups de couteau. Ils m'ont dit ils ont même dû créer des machines spéciales pour fabriquer les parapluies parce que les aiguilles à coudre passaient pas à travers. Ce qui est trop évidemment. Eh ben oui, c'est un truc anti-lacération, donc ça fonctionnait pas. Donc enfin, il y avait toute une histoire autour de ça, et c'est ça en fait qu'on aime. Enfin moi que j'aime en tout cas, c'est voilà raconter une histoire qui est pas seulement un objet, parce qu'un objet c'est pas en tant que tel c'est pas intéressant. C'est à quoi est-ce qu'il peut servir, et puis l'histoire de l'entreprise derrière. Ça c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et là pour le coup ça coche un peu toutes les cases, quoi. Donc
Willem,
et ça vous arrive de recevoir des objets en exclusivité?
Oui, ça arrive régulièrement, bah, notamment quand je parle avec des startups, des petites entreprises naissantes. En général, ce qu'ils font, le processus, c'est que d'abord ils créent un prototype. Hein, c'est pas avant que ce soit commercialisé, il y a toute une phase de prototypage. Ils créent un produit unique d'abord qui va fonctionner avant de voir s'ils peuvent l'industrialiser et le produire à grande échelle. Et souvent, oui, je me fais envoyer des prototypes. Alors c'est des objets qui sont très fragiles, faut y faire très attention. En général, c'est des exemplaires uniques, donc les entrepreneurs, les inventeurs, ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux parce qu'ils ont passé 2 ans, 3 ans à bosser dessus. Donc il faut y faire très attention, mais ouais, on arrive régulièrement à en montrer. Et c'est vrai que c'est assez plaisant quand on arrive avec le prototype et puis qu'on suit l'histoire et qu'un an ou 2 ans après, eh ben, on se rend compte que le produit est vendu dans le grand public, qui fonctionne commercialement et que voilà, on est content d'avoir été à l'origine aussi, d'avoir participé à la jeunesse de l'histoire.
Mariana ?
Mais donc, est-ce que c'est tous ces prototypes et tout, enfin tous ces objets sont faciles d'accès ou justement il faut...
Alors facile d'accès en termes de prix ?
Oui.
Alors en termes de prix, ça dépend. Alors quand on parle des prototypes, pour le coup, ça n'a pas de prix en fait. C'est vraiment pour le coup, c'est un objet unique. En revanche, si on parle des objets dont je parle de manière générale. Alors c'est très variable. Là, en l'occurrence, le parapluie, non, c'est pas facile d'accès du tout, puisqu'il coûte 10 000 euros, si je me souviens bien. Donc ça fait cher le bout de tissu, mais bon, c'est pas... En même temps, à part si vous avez des ennemis qui risquent de vous balancer des parpaings à la tête, c'est pas forcément utile pour monsieur et madame tout le monde non plus. C'est vraiment fait pour les chefs d'État, bon. Mais après, les technologies dont je parle régulièrement, oui, bien sûr, il y a des choses qui sont très abordables, hein, dans le domaine des objets connectés. De toute façon, il y a une baisse des prix dans le domaine technologique qui est aussi très spectaculaire. L'électronique, c'est un truc, c'est fou, quoi. Les prix descendent, enfin vous avez un prix et puis un an plus tard ça a baissé de moitié, l'année d'après vous l'avez pour un dixième du prix, enfin c'est très spectaculaire, mais oui, donc c'est extrêmement variable selon les objets, mais c'est vrai qu'on aime bien montrer des choses un petit peu exclusives, donc
précisément spectaculaires.
Bah oui, c'est ça, précisément spectaculaire. Donc du coup il y a des choses qui coûtent effectivement très cher. Je me souviens, j'avais montré un VTT à 50 000 euros aussi imprimé en 3D la dernière fois, qui était assez sympa. Enfin, il y a plein de choses comme ça.
Et pas vraiment pour monsieur tout le monde non plus.
Pas non plus, non, c'est ça, pour vraiment les fans de vélo.
Saïd, c'est toi qui nous a recommandé d'inviter Anthony Morel aujourd'hui parce que t'es spectateur, que tu regardes cette chronique parfois. Est-ce qu'il y a un objet dont tu te souviens particulièrement?
Ouais, j'avais vu que sur BFM TV, vous avez présenté, en fait, c'était un pare-brise et c'était virtuel, en fait. C'était connecté au monde réel, ouais. Mais c'était virtuel.
Oui, exactement. Oui, je me souviens très bien, c'est ce qu'on appelle un pare-brise à réalité augmentée.
Alors, ça consiste en quoi ?
Alors, réalité augmentée, le principe, c'est que le pare-brise, en fait, se transforme en écran numérique. Alors, vous voyez... comme à travers un pare-brise normal. Heureusement, vous conduisez, bon, c'est un écran, mais vous voyez à travers. Simplement, vous avez des informations numériques qui vont venir se superposer à la réalité. Donc ça va être, par exemple, si un piéton qui s'apprête à traverser un petit peu plus loin, eh ben, il va s'afficher en rouge directement sur le pare-brise. Ou alors vous allez avoir les distances de sécurité, vous avez les bandes qui vont s'afficher en vert si vous êtes à la bonne distance, et puis en rouge si vous vous rapprochez un petit peu trop. Donc il y a plein de possibilités. Le but, c'est d'améliorer la sécurité des voitures.
Alors, je sais pas, Saïd, par exemple, quand tu regardes cette chronique, quand tu entends Anthony Morel à la télévision te parler de ce pare-brise-là, tu te dis que certes c'est un objet qui existe, une voiture qui existe, mais est-ce que tu te projettes dans le futur en tant que conducteur, t'es là avec ta copine ou avec tes enfants et t'as ton pare-brise holographique devant toi ?
Ouais, bien sûr. Bah, c'est un rêve un peu. Tout le monde rêve d'avoir une voiture qui roule toute seule, qu'on ne conduit pas. C'est un peu un rêve que tout le monde va avoir, ça.
Mais c'est un rêve ou en tout cas, tu penses que vraiment dans quelques années, le monde dans lequel tu vivras ressemblera à ça ?
Je sais pas si le monde il va ressembler à ça. Hein. Parce qu'on se disait tous que... En 2012, il va y avoir des voitures qui volent, mais là, on capte même pas la 3G.
Bonne remarque, très bonne remarque.
Tu te disais qu'il allait y avoir des voitures qui volent en 2012.
Bah bien sûr.
C'est vrai ?
Ouais.
Mais il y a des voitures qui volent.
Il y a des voitures qui volent ?
Ouais. Ouais.
Ah bah racontez-nous, Anthony.
Alors il y a des voitures qui volent, alors pas à grande échelle évidemment, mais il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur des voitures volantes qui fonctionnent. Alors c'est pas des voitures volantes comme on les imagine dans les films de science-fiction. Il y a une entreprise qui s'appelle TerraFugia par exemple, qui a été fondée par des anciens ingénieurs, enfin des ingénieurs du MIT, donc prestigieuse université américaine, qui ont mis au point une voiture qui, alors, commence sa journée comme une voiture tout à fait normale. Alors ça ressemble à une espèce de pot de yaourt. Et une fois que vous êtes alors sur un aérodrome, parce qu'on n'a pas le droit de décoller au milieu des bouchons, pas encore, eh bien vous avez des ailes qui se déploient et la voiture peut s'envoler. Et ça fonctionne. Voilà. Donc ça existe, la technologie existe. Après, je dis pas qu'elle va être, encore une fois, industrialisée, ça coûtera probablement très cher, etc.
Et accessible à tous.
Et accessible à tous.
Mais elles sont déjà commercialisées ou...
Alors, le premier modèle qu'ils ont développé, alors aux dernières nouvelles, elles étaient en précommande. Alors, est-ce qu'on peut les acheter ou pas? En tout cas, la problématique, c'est même pas tant de l'acheter que d'avoir le droit de voler avec. En fait, c'est plus ça le problème, parce que derrière, il y a toute une question... Et c'est un peu ce qui freine la technologie aujourd'hui, en bien ou en mal, hein, mais c'est la réglementation. C'est bien beau d'avoir une voiture volante, mais enfin, si vous mettez à voler sur le périph, ça risque de poser quelques problèmes aux autres automobilistes et aux forces de l'ordre, évidemment. Mais la voiture était en tout cas en précommande, on pouvait l'acheter, elle coûtait 200 000 euros, si je me souviens bien.
Ce qui est pareil, une petite somme.
C'est une petite somme. Enfin voilà, vous pouvez avoir une Ferrari ou une voiture volante pour 200 000 euros, donc vous choisissez. Hein.
Saïd, il disait qu'en regardant la télévision, il se voyait très bien au volant de cette voiture avec un pare-brise un peu particulier. Si on fait un petit tour de table et qu'on essaie de décrire les objets auxquels les uns les autres vous rêvez, dans lesquels vous projetez. Je sais pas, Willem, tu penses à quoi par exemple? Une machine de rêve, un objet de rêve, quelque chose que tu voudrais acquérir si tous les ingénieurs se mettaient à travailler pour toi?
Une machine dans laquelle on rentre et puis on écrit la destination dans laquelle on veut aller et hop, d'un coup on est dans un autre pays.
Hop, en claquant.
Téléportation.
Ouais, directement.
Ça, c'est un vieux rêve, ça, tu sais?
Ouais, je sais pas.
Pourquoi est-ce que toi, tu voudrais aller... ce serait quoi? Être sans frais, sans perte de temps?
Non, sans perte de temps.
Et tu irais où, alors?
Aux Bahamas.
Et qu'est-ce que tu ferais aux Bahamas, une fois sur place? Est-ce qu'il y aurait une autre machine de rêve qui t'attendrait aux Bahamas?
Non, faut pas abuser. Ouais, c'est trop.
Une seule machine de rêve?
Ouais, une seule.
Juste claquer des doigts et aller aux Bahamas?
Ouais, voilà, c'est tout.
Bon, tu penses que ça, c'est faisable ou pas?
Non, c'est impossible.
Anthony Morel, votre avis?
Ça paraît compliqué. Je ne suis pas scientifique de formation, mais c'est vrai que la téléportation, quand on lit un petit peu des choses autour de ça, ça semble un rêve malheureusement inaccessible. Comme le voyage dans le temps, ça reste les deux limites de la science aujourd'hui.
Ah, Willem, désolé. Mariana, tu penses à quoi comme objet de rêve, comme machine de rêve?
Bah, moi, je pensais à la machine à voyager dans le temps aussi, mais surtout à une espèce de salle de cinéma qui nous fait émerger dans le film, justement, enfin, comme une espèce de bulle géante, et enfin, on est totalement dans le film, en fait.
Ah, ça, on va y venir dans quelques secondes, mais simplement, le voyage dans le temps, tu irais où?
Dans le futur, enfin, voir dans l'avenir ce que je serais devenue, enfin, quoi ressemblerait à l'avenir.
Futur proche, voilà. Ou futur lointain?
Futur lointain.
Dans combien de temps, par exemple, si tu pouvais cliquer, programmer sur ta petite machine?
Ben, je sais pas trop, enfin...
15, 20, 25?
25.
Tu veux te voir à quel âge? Dans le futur, en tout cas, tu veux savoir à quoi tu ressembles. Et tu ferais un retour arrière ou pas? Tu reviendrais ici
oui,
au lycée
Jacques
Lecour?
Enfin, si ça me plaît, oui, mais sinon...
Saïd, tu penses à quoi comme machine de rêve, toi?
Moi, j'ai pas trop de rêve, en fait. C'est... Je sais pas comment dire. Je sais pas.
Pas de rêve du tout ou pas de rêve en lien avec des machines?
Si, j'ai des rêves avec des machines, mais j'attends que ça arrive.
Et tu veux pas nous les dire?
Non.
Secret.
Il se crée.
Rêve secret. Et toi, Gérard?
Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était dans le film Retour vers le futur, où ils sont en 2015, donc moi, j'attendais que 2015 soit comme ça. Et je voulais la même maison que Marty McFly.
Elle ressemble à quoi, cette maison, dans le film?
Où il y a les pizzas qui sont toutes seules. Tout se fait tout seul, en fait. Il y a juste à demander l'intelligence artificielle de la maison.
Et donc, toi, t'étais là, tu te disais, bon, bah, 2015, c'est bientôt, j'ai juste à attendre.
Ouais, bah, même j'attendais les chaussures qui se lassent toutes seules aussi.
Ça arrive.
Ça, je sais ça.
Ça, tu l'as vu. Hein. Mais moi, je suis pareil. Hein. Par contre, moi, le truc qui me faisait rêver, c'était la machine à faire grossir les pizzas. Mais
ouais,
non,
ça, c'est
pas au goût du jour non plus.
Bon, puisque 2015 ne vous a pas livré des pizzas qui grandissent toutes seules, toi, tu rêves à quoi comme machine, Gérard?
Bah, j'attends toujours la maison. Hein,
Tu t'es pas désespéré?
Non, bah non. Puisque ce sera peut-être possible un jour, hein, on verra.
À quel horizon tu penses, là, à peu près raisonnablement?
Je serais peut-être plus là, par contre.
Ah bon? Ah oui.
Enfin.
Oh, si.
Bon, est-ce qu'il y a une autre machine en dehors de la livraison de pizza qui grandit toute seule, qui fait rêver?
Bah, l'overboard. Ça, c'était pas mal aussi. Mais
le skateboard volant. En attendant, voilà. Tu fais du skateboard pas volant?
Non, j'en fais pas du tout.
Ah non,
mais
c'est où ça vole. Où ça vole ou pas?
Ouais, mais on peut toujours s'y mettre. Hein, avec un.
Elodie, est-ce qu'il y a une machine que tu imagines, une machine de rêve?
Bah alors moi j'avais la même idée que Gérard, la maison qui fait tout à ta place en fait.
Et tu l'attendais aussi pour 2015?
Ah ouais. C'est un rêve quand même. Enfin, t'es chez toi et tu fais rien. La machine, elle fait tout pour toi. Elle s'occupe de tes enfants.
C'est assez étonnant parce que dans les ateliers où on a préparé cette semaine sur le rêve, quand on vous demandait aux uns et aux autres de vous projeter dans vos rêves les plus fous, la plupart du temps, vous répondiez « T'es là et tu fais rien. »
Bah oui.
C'est marrant, Élodie, toi, quand tu te dis vraiment le rêve, ce serait rien faire, en fait.
Bah, pas ne rien faire, mais tout ce qui est ménage, occuper les enfants, pas loisir, bah, quitte à pas le faire, tant mieux.
Avoir une vie que de loisirs.
C'est ça.
Et donc, par exemple, une vie où toutes ces tâches-là sont remplacées, faites exécuter par des robots ou faites magiquement sans robots, ça te fait rêver.
Ouais.
Et puisque la maison n'a pas été livrée, est-ce qu'il y a une machine plus pratico-pratique qui te fait rêver?
Non, pas. Ah, une machine qui plie les vêtements. Je ne sais pas plier.
Anthony Morel, est-ce qu'il y a une machine à laquelle vous rêvez et qui n'a pas encore atterri dans vos chroniques pour la télévision?
Bah moi, c'est pareil, c'est la machine à remonter, enfin à voyager dans le temps. Moi, c'est ça qui me.
Alors, vous êtes plutôt comme Mariana, plutôt dans le futur ou plutôt dans le passé?
Les deux. Moi, passionné d'histoire, donc j'aimerais bien revenir dans le passé, vivre certaines époques. Ça m'aurait fait rêver. Mais aller voir dans le futur, mais très loin, moi, pas dans 15 ans. Je m'en fiche de savoir ce que je serai dans 15 ans, mais dans 2000 ans, voir à quoi ça ressemblera un peu tout ça, quoi. Où est-ce qu'on en sera?
Si on avec tout... retour vers le présent.
Retour. Oh oui, quand même. Ben, enfin, ça dépend ce que je verrai là-bas. Mais enfin, a priori, je dirais oui. Voir si les robots ont pas pris le contrôle déjà. Hein. Et puis, mais oui, avec retour dans le présent pour raconter ce que j'aurais vu. Le simulateur de pêche chanté par le groupe Salut c'est cool. Alors il est question de sensations qui sont très réelles, bien réelles. Ça nous fait entrer dans un autre monde. Gérard, lequel?
Celui du masque dans lequel il nous projette dans un autre univers ou un autre monde programmé. Et j'aimerais savoir si vous l'aviez essayé vous-même.
Oui. Enfin, les masques de réalité virtuelle, hein. Ouais, c'est ça, on en entend de plus en plus parler. Oui, j'en ai testé plusieurs, parce qu'il y a plein de modèles qui sont en train de sortir ou sur lesquels travaillent les constructeurs. Il y a l'Oculus Rift, il y a le Gear VR, il y a le Vive aussi, qui sont différents, avec des niveaux de qualité différents. Mais oui, je les ai testés, et c'est vrai que c'est très spectaculaire. Enfin, pour moi qui suis amateur de jeux vidéo, joueur depuis longtemps, c'est vrai que c'est, pour moi, c'est une vraie rupture. C'est-à-dire quelque chose que... on n'avait pas vu une rupture comme ça depuis très longtemps. Parce que pour la première fois, et c'est quand même le but à la base du jeu vidéo, on est immergé, mais vraiment à 100% dans l'image, à tel point qu'on a l'impression de vivre un film ou un jeu. Mais c'est vraiment assez incroyable. C'est-à-dire qu'avec un sentiment de... Moi, j'ai passé le casque à des collègues qui avaient le vertige, par exemple, chose à ne pas faire, ils avaient réellement le vertige. C'est-à-dire c'était une vidéo de... On était dans... C'est une balade en hélicoptère au-dessus de New York. Et donc, quand on baisse la tête, en fait, l'image, donc c'est le principe des masques de réalité virtuelle, l'image bouge en même temps que vos yeux, et vous avez vraiment l'impression d'avoir le vide en dessous de vous. Et j'ai un collègue vraiment qui s'est accroché à moi, parce qu'il avait peur, quoi. C'est effrayant. Enfin, il y a un côté immersif qui est très spectaculaire. Et donc, ça fonctionne pour les films, ça fonctionne pour les jeux aussi, évidemment.
Élodie ?
Mais justement, est-ce que c'est pas dangereux, du coup, parce que ça peut faire très peur à certaines personnes qui sont sensibles, mais qui jouent quand même ?
Alors oui, alors après à chacun il y a une question de responsabilité individuelle, à chacun de connaître ses limites. C'est vrai que je déconseillerais à quelqu'un qui est un peu sensible ou un peu cardiaque de jouer à des jeux vidéo d'horreur à minuit par un soir d'orage sur un masque de réalité virtuelle, parce qu'effectivement
parce que la sensation de réalité est vraiment très forte.
Ah oui, la sensation de réalité est très forte. C'est assez dingue, c'est-à-dire qu'on vraiment l'image bouge en même temps que vous et donc vous avez l'impression d'être à l'intérieur de l'image, d'être vraiment de faire partie du jeu ou de faire partie de la vidéo. Et ça va encore plus loin, puisque c'est pas seulement le masque, mais il y a des entreprises qui fabriquent des accessoires pour le masque. Alors par exemple, j'ai testé un truc là sur un salon high-tech la dernière fois, où c'était un tapis de course qui était relié au masque. Donc là, vous courez en même temps que votre personnage. Et vous touchez les choses en même temps que votre personnage. Et puis vous voyez comme votre personnage, donc vous êtes vraiment à l'intérieur du jeu. Et ça, c'est des choses... faire mon ancien combattant encore, mais moi quand je jouais sur ma Master System, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour on aurait quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Vous avez une chance d'être des jeunes joueurs à cette époque. Moi, je rêverais d'avoir votre âge rien que pour ça, parce que vous allez voir, et là on est qu'au tout début, de la réalité virtuelle, mais l'évolution va être incroyable et ça va permettre des sensations d'immersion. Total. Et pas seulement dans le jeu d'ailleurs, parce qu'on parle du jeu, mais après il y a plein d'applications possibles pour ces masques de réalité virtuelle. Donc regarder des films évidemment, regarder un concert par exemple, j'avais fait ça, on regarde un concert, on a l'impression d'être sur scène avec le chanteur et puis on voit la foule qui est en train de hurler des documentaires animaliers avec les requins autour de vous, vous êtes sous l'eau, enfin il y a plein de choses. Et puis après des applications même professionnelles, on imagine la visite d'appartement par exemple, il n'y a plus besoin de se déplacer, on va... visiter l'appartement comme ça virtuellement. Ah oui, il me plaît.
Et on peut rien faire comme rêve Élodie.
Voilà, mais c'est ça. Alors là c'est on
dans
y
son
est.
Fauteuil.
On y est dans son fauteuil et le masque nous apporte tout.
Dans le public ici au CDI, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Bonjour.
Bonjour. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous savez s'il existe déjà une machine ou s'il y a des projets pour remplacer l'homme et la femme bien sûr dans la matière de l'art, je veux dire capable de créer une œuvre, une peinture, voilà.
Oui, alors c'est une très bonne question. Alors oui, enfin, il y a des projets comme ça, effectivement, de peinture par intelligence artificielle. Bah, c'est Google, par exemple, je crois, qui a fait ça. Il y avait aussi le Watson d'IBM, qui est leur intelligence artificielle, où ils demandent à l'ordinateur de créer des œuvres d'art, de générer des œuvres d'art. La musique aussi, pareil, on a de la génération comme ça de musique par ordinateur. Après, il y a une question philosophique, moi je suis pas philosophe, mais à répondre, est-ce que c'est de l'art, effectivement, ou est-ce que l'art est une création foncièrement humaine ? Moi, là, j'ai pas la réponse à ça, mais effectivement, il y a des productions. Alors, je vous conseille d'aller voir ou d'aller écouter. La musique, c'est assez étonnant. Enfin, j'ai de la musique classique, par exemple, qui est composée par ordinateur. Et c'est vrai que, bah, enfin, une oreille non avertie. Moi, je suis pas spécialement mélomane non plus, hein. Mais jamais vous diriez, bah, c'est un ordinateur qui a composé cette mélodie-là. Donc, en tout cas, il y a une confusion possible. Sur les œuvres de peinture, bon, moi, c'était pas trop de mon goût. Mais allez voir à quoi ça ressemble. Vous me direz.
Mais toi, en posant cette question, tu te dis que c'est quelque chose qui plutôt te fait rêver ou plutôt t'effraie?
Moi, je dirais. Plutôt, ça fait peur, parce que je me demande si un jour la machine va être capable de faire tout, même imaginons de créer d'autres machines, quelle va être la place de l'homme, enfin, comment on va, disons, gagner sa vie, qu'est-ce que va devenir la société, non ? Il devrait avoir des limites, non ? Quelque chose, parce que sinon, ça va être un peu... Ça fait peur, quoi.
Est-ce que voilà. Tu as l'impression que, parce que puisque tu poses la question des œuvres d'art, tu as l'impression que c'est la dernière limite, en fait, justement, cette production d'art ?
Oui, ça pourrait être la dernière limite. Je veux dire, en matière de création, moi, un ordinateur qui est capable de créer de la musique, de l'art, ça... c'est intéressant, la matière aussi, mais si ça évolue à un point, et si on accepte surtout que la machine remplace à l'homme, je pense qu'on va être un peu... Je ne peux pas dire le mot ici, mais voilà. Tu comprends ?
Est-ce que tu penses que tu tendrais une oreille identique à une œuvre d'art, par exemple musicale, composée par un robot ou un ordinateur, et à une œuvre d'art musicale dont tu sais qu'elle est composée par un humain ?
Non, je serais plutôt ouverte à la question. Je trouve que c'est intéressant, que, voilà, pourquoi pas explorer les limites.
Tu aurais les oreilles ouvertes ?
Oui, voilà.
Ordinateur, robot ou humain.
Oui, c'est pas... Voilà, c'est pas mauvais, quoi. C'est assez intéressant, c'est curieux.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
Et pas de rubrique au singulier cette semaine à cette heure-ci en fin d'émission, mais une quasi-totale liberté pour les élèves que nous avons rencontrés ici au lycée Jacques Decour à Paris pour nous donner des bouts de vie rêvée. Alors Oulène, toi t'as décidé de nous emmener dans un jeu vidéo un peu particulier. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment il s'appelle ?
Alors c'est le jeu FIFA, qui est un jeu de sport, un jeu de football.
Toi tu y joues depuis combien de temps ?
Oh, ça fait beaucoup d'années déjà.
Ça te fait toi un joueur tout à fait averti de FIFA. Quel genre de vie rêvée ça te permet de vivre, ce jeu-là ?
Ce jeu, en fait, je vais dire qu'il a aucune limite, en fait, dans une vie rêvée de sport, en fait. On peut rêver d'une vie d'entraîneur, une vie de joueur. Voilà, on n'a aucune limite, vraiment.
Alors, quand tu allumes ta console, ça se passe comment ?
Déjà, on insère le disque. Et directement on tombe sur le menu du jeu, et puis on a plusieurs options possibles. On peut déjà créer une carrière d'entraîneur ou de joueur. On peut sélectionner l'équipe qu'on veut, ou sinon on peut directement jouer à une partie rapide entre amis. On a le droit à maximum 4 joueurs, il me semble, ouais, 2 dans chaque équipe, et voilà.
Alors toi, tu choisis plutôt de faire la partie rapide avec tes copains ou d'embrasser la carrière d'un entraîneur ?
Non, entraîneur. C'est plus intéressant, en fait.
Alors, comment ça se passe une fois que tu as cliqué sur entraîneur ?
En fait, directement, on clique, puis on écrit notre nom de famille, etc. Et puis, directement, on a en fait une image de média qui est Beansport. Donc, directement, en fait, on a directement un...
Comme une nouvelle, comme une information.
C'est
comme
une information sur nous, en fait, qui parle au public. Et ensuite, directement, on
qui annonce votre nomination, quoi.
C'est
on dit, Willen est devenu le nouvel entraîneur de l'équipe.
Nouvel entraîneur, nouveau jeune entraîneur.
Et là, petite fierté, quand même, devant la console.
C'est ça, ouais. Et voilà.
Et alors, après, comment ça se passe une fois que t'es nommé et que les médias ont dit que tu étais nommé ?
Et voilà, et puis directement, en fait, on tombe sur le menu de l'entraîneur. En fait, on a plusieurs cases. On a la case bureau, dans laquelle on peut gérer les contrats des joueurs. Et puis on a la case média, dans laquelle en fait on peut donner des interviews. Et on a la case jeu directement, où on peut faire des matchs.
Alors imaginons que tu joues cet après-midi, mercredi en rentrant, que tu arrêtes ta partie, tu fais quoi ? Tu la reprends, les contrats que tu es en train de négocier, si tu y reviens une semaine plus tard, tu reprends les contrats là où tu les as laissés ?
Après, faut pas oublier de sauvegarder. Si on oublie de sauvegarder, c'est mort.
Et qu'est-ce qui te fait rêver alors dans cette carrière d'entraîneur ? Ça correspond à un rêve que tu entretiens dans la réalité ?
Oui, je pense que en fait beaucoup de jeunes rêvent d'une carrière sportive ou autre. Et puis en fait, arrivé à un certain âge, on se dit que c'est compliqué. Puis on rêve directement d'une carrière d'entraîneur ou pourquoi pas média sportif. Et puis directement, on peut se créer une vie en fait, une vie virtuelle.
Et c'est quelque chose que tu, par exemple, est-ce que tu as créé une vie d'entraîneur dans FIFA que tu poursuis, mettons, depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois ?
Ouais.
C'est ton vrai nom ou pas ?
Ouais, c'est mon vrai nom.
Et alors, tu es entraîneur de quelle équipe dans la vie virtuelle de FIFA ?
C'est dur à dire, mais c'est l'Olympique de Marseille.
Pourquoi c'est dur à dire ?
Ouais, parce qu'on est à Paris, en plus, ils sont pas très bons.
Mais c'est pas grave, t'as quand même cru dans l'équipe de Marseille.
Ouais, on a gagné la Ligue des Champions hier.
Dans ton jeu ou dans la réalité ?
Ouais, dans mon jeu. Ah non, dans la réalité, hier, on a perdu 5-2 contre Rennes. C'était pas trop...
Et alors, qu'est-ce que tu réussis à réaliser comme rêve ? Par exemple, tu passes plus de temps à faire quoi ? Répondre à des interviews, négocier des contrats ? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu rêvais d'acheter et que tu as obtenu ?
Ouais, j'ai acheté Cristiano Ronaldo, gratuitement, parce que je l'ai pris à 6 mois avant la fin de son contrat. Donc, je l'ai eu gratuitement. J'ai pas eu Messi, il voulait pas venir, c'était mort.
Même avec toi, même avec tout l'aura et ta présence médiatique,
ouais,
il n'a pas voulu.
Je suis devenu une petite star en plus, mais il ne voulait pas venir.
Bon, et Saïd, est-ce que toi, tu joues aux jeux vidéo?
Non, moi, je joue pas trop aux jeux vidéo. C'est... On va dire que j'ai passé l'âge.
Merci. Pourtant, t'as le même âge. T'as le même âge que Moulin. Est-ce que tu as joué aux jeux vidéo avant?
Non, ouais, j'ai joué aux jeux vidéo. J'y joue encore de temps en temps, mais c'est pas trop ma passion, en fait.
Alors, qu'est-ce qui remplace les jeux vidéo? Qu'est-ce que tu fais à la place?
Mes amis, la famille, le sport, plein de trucs.
Toi, tu entretiens encore le rêve d'être un grand sportif?
Ouais, mais c'est dur, hein.
Et la carrière d'entraîneur, ça te fait rêver aussi? Ou plutôt, tu veux courir sur le terrain?
Être un joueur, moi. C'est être un joueur.
En football aussi?
Ouais, en football.
Et ça, c'est récurrent ou pas dans la cour du lycée ici à Jacques Decour de vouloir être entraîneur de football ou joueur de foot?
Ouais.
Tous les garçons de votre âge veulent être joueurs de foot ou entraîneur?
Non, après, ça dépend. Des garçons comme Gérard, je pense, ils veulent faire du skate, peut-être, je sais pas. Non, c'est
bon. Bah, peut-être il faut laisser Gérard parler de ce qu'il veut faire. Gérard, toi, tu rêves pas d'être joueur de football?
Non, pas de foot, non. Ça
toi, tu rêves d'être quelque chose?
On verra.
De faire quelque chose? Toi, tu laisses le temps venir.
Ouais, voilà.
Et bah, t'as peut-être raison. Et ouais. Toi, Elodie?
Ah bah, moi, pareil.
Toi, t'attends de voir?
J'attends de voir la suite.
Et Mariana?
Oui.
Non, ouais. Mariana, peut-être que t'as pas envie de raconter?
Non, mais j'attends de voir aussi un peu. Voilà.
Et on se quitte sur cet extrait de la bande originale musicale du jeu Remember Me, composé par Olivier de Rivière. Merci infiniment, Anthony Morel, d'avoir répondu à leur invitation.
Merci à eux, merci à vous.
Émission. Et merci à Mariana, merci à Elodie, Gérard, Saïd et Willen qui avaient préparé et qui ont participé à cette émission. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci infiniment aux élèves qui étaient avec nous cet après-midi. Les nouvelles vagues sont terminées pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de rêve depuis le CDI du lycée Jacques Decour à Paris. Merci à toutes les équipes pédagogiques qui nous accueillent ici et aux élèves, évidemment. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et Chloé Leblon qui ont préparé cette émission avec moi. L'émission est réalisée par Lise Combe, avec aux manettes Nicolas Mathias, Eric Damaggio, Alex Martin et en chargé de production Roland Dandalex.